France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La République fait bloc autour des victimes. Voici les mots d'Emmanuel Macron hier soir après l'attaque d'une mosquée à Bayonne, attaque qui a fait 2 blessés graves. La justice, elle, s'interroge sur la santé mentale de l'auteur de cette attaque. Cet ancien candidat d'extrême droite explique qu'il a voulu venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il attribue l'incendie aux musulmans. Le procureur national antiterroriste attend les conclusions de l'examen psychiatrique pour dire s'il se saisit ou non du dossier. La République fait bloc donc et la laïcité doit rester un principe. Le chef de l'État estime qu'elle vient renforcer chacun des piliers du triptyque républicain. La prise de parole solennelle hier soir dans ce contexte d'autant plus tendu que la classe politique se déchire sur la place de l'islam et sur sa visibilité. Hier, les sénateurs ont voté l'interdiction du port de signes religieux pour les parents d'élèves accompagnant les sorties scolaires. C'était une proposition de loi du groupe Les Républicains. Elle a en revanche peu de chances d'être confirmée par l'Assemblée nationale. Il y aura bien des élections anticipées en Grande-Bretagne. Elles se dérouleront le 12 décembre prochain. Les députés britanniques ont approuvé hier soir cette proposition du Premier ministre Boris Johnson. Le Brexit, lui, est reporté, je vous le rappelle, au plus tard au 31 janvier 2020. Il veut répondre à la révolte populaire qui secoue son pays depuis 2 semaines. Le premier ministre libanais a démissionné hier. Saad Hariri l'annonçait à la télévision, ce qui a provoqué des cris de joie de la foule dans les rues de Beyrouth. Les manifestants restent toutefois mobilisés ce matin encore. Ils demandent le départ de l'ensemble de la classe politique libanaise. Et puis, dans l'actualité de ce mercredi matin, notons également ces discussions dont font état plusieurs médias. Discussions entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler. Les deux constructeurs automobiles envisagent une fusion, ce qui permettrait de créer une entreprise valorisée à 50 milliards de dollars. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem et comme nous sommes mercredi, nous parlons cinéma ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec le réveil culturel, tous les matins à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast, tous les mercredis c'est l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui c'est pas un réalisateur que je reçois mais un comédien, William Lebguil. Il est à l'affiche d'un film qui sort aujourd'hui, Debout sur la montagne, un film réalisé par Sébastien Betbeder. Je vous raconte très brièvement l'histoire, c'est l'histoire de 3 amis qui se retrouvent, 3 amis qui ont grandi dans les montagnes, Stan, Hugo et Bérénice. Et ils étaient inséparables mais quand ils se retrouvent, 15 ans plus tard je crois, comment dire, ils ont vécu quelques mésaventures, c'est la vie, certains d'entre eux sont abîmés. Et vous, William Lebguil, bonjour d'abord.
Bonjour.
Et vous, vous jouez les rôles de Stan. Stan, chômeur, schizophrène, tendance paranoïde, qui ne désespère jamais du ciel. Et pourtant, vous n'êtes pas méchant, vous restez doux.
Oui, tout à fait. Mais c'est un personnage qui avait une grande douceur. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que le réalisateur voulait. C'était de le rendre doux et pas. C'était ça. C'était vraiment ça.
C'était de la douceur.
Comment on prépare ce rôle, par exemple? Est-ce que le réalisateur vous a choisi parce que vous êtes William Gill, c'est-à-dire avec une réputation déjà. Si vous êtes, si c'est votre première interview sur France Culture, vous êtes quand même dans un certain milieu déjà célèbre.
Je sais pas, mais en tout cas, il m'a proposé le film. Ouais, tout à fait. J'ai pas passé de casting. Et en ce qui concerne le travail, c'était moi j'avais déjà eu une expérience en fait. Enfin, quand j'avais 18 ans, j'avais travaillé dans un hôpital psychiatrique à la trésorerie de l'hôpital psychiatrique, et mon travail en fait consistait à trier des factures de médicaments. Et c'est vrai que quand je prenais ma pause clope, je fumais des clopes du coup avec les malades, les patients de cet hôpital. Ça m'intéressait beaucoup de les observer et et j'avais un peu peur. Et en fait, j'ai travaillé aussi là-dessus le préjugé qu'on peut avoir et la peur qu'on peut avoir de cette maladie où effectivement, du coup, on parque les gens et tout ça. C'est une maladie qui est un peu méconnue. La schizophrénie, il y en a une multitude de schizophrénies. Et du coup, j'ai essayé de trouver ma propre schizophrénie, en fait. C'était ça l'idée, c'était de travailler sur une maladie plutôt sourde qui se manifeste comme ça par bribes et essayer de montrer si c'est réussi cette lutte en fait pour cacher une chose qui est pour la société un peu honteuse et qui montre que l'être est défectueux, quoi.
Pour essayer de rattraper le temps perdu.
Pour vous dire la vérité, monsieur l'agent, on est en mission spéciale.
Et quel genre de mission spéciale?
On travaille pour le CRNS. Le CRS.
CNRS.
Le CNRS.
Alors, les trois protagonistes du film n'ont pas 30 ans, mais quand ils se sont quittés, ils étaient enfants, ils étaient dans l'âge de l'innocence, comme on dit. Là, quand ils se retrouvent, quand ils se revoient dans ce petit village perdu dans les montagnes, chacun a eu une expérience dure avec la vie, mais ce n'est pas un film pour autant sur la schizophrénie, on est d'accord, debout sur la montagne.
Pas du tout. Non, oui, c'est pas du tout. Enfin, c'est un caractère d'un personnage du film, et le film traite du coup de plein de choses très différentes et principalement en fait justement de l'amitié et de ce retour en enfance dans leur village d'enfance et de recherche aussi de bonheur et de retrouver. C'est ce que il y a un personnage qui dit ça dans le film, c'est quand est-ce qu'on va réussir à la retrouver, cette foutue joie qu'on a eue quand on était enfant et qu'on se sentait libre, etc. Et c'est toute la quête de ces trois personnages pendant le film.
Jeunesse un peu désespérée, quand même.
Désespérée, oui et non. Parce que ils vivent un traumatisme ensemble, ces trois personnages. Et en même temps, on constate qu'ils ont grandi dans la nature, dans une nature en plus qui est vraiment grandiose, qui remet aussi l'être humain à une espèce de place qui paraît plutôt réaliste en fait. Et avec une fougue aussi de l'enfance, de faire des petites fugues, des petits machins, des choses.
Mais le film fait des fugues parce qu'il y a aussi du fantastique dans ce film.
Ouais, bien sûr, il y a du fantastique, mais c'est ça que moi j'avais vraiment énormément aimé à la lecture du scénario, c'est que c'est un film qui est hyper surprenant. On passe d'une scène à l'autre et d'un univers à l'autre et tout ça. On rentre dans des univers très mystiques parfois pour revenir parfois à de la comédie, à du drame et tout ça. Donc c'est un film qui est très vivant, quoi, qui est très proche de la vie, quoi.
William Lebgill, c'est oui. Parfait parce que du coup, oui, ça y est, vous vous éloignez un peu de votre jeunesse qui était plutôt cantonnée dans un registre comique pour adolescents.
Oui, tout à fait. Et avec ce film aussi, je vais dans des endroits qui me sont inconnus, quoi. Je découvre plein de choses et c'est vrai que pour un acteur, c'est exceptionnel, c'est formidable.
Bon, William Lebguil, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais il suffit juste de vous dire que c'est le partenaire de Vincent Lacoste dans le film de Thomas Little, Première année, où vous étiez un étudiant en médecine plutôt sérieux. Il suffit surtout de dire que vous avez joué Jérém, le rappeur flemmard, un peu minable, qui trouve l'inspiration grâce à l'intelligence artificielle de son frigo dans Yves, le grand film de Benoît Forgeard. Mais vous avez commencé ailleurs, dans des films et dans des productions de votre époque, les web-séries, c'est-à-dire le comique.
Ouais, bien sûr, et puis c'est par le comique aussi que j'ai découvert le théâtre. C'est par le comique de Jamel Debbouze aussi que j'ai découvert la scène. La comédie, c'est quelque chose que je chéris depuis l'enfance, quoi. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est ce qui m'a rendu aussi très heureux.
Tout commence dans le 77, quelque part.
77. ouais, en Seine-et-Marne, donc, à Cervon, un petit village de 3000 habitants.
Vous aussi, vous dites 7-7, hein?
Ouais, 7-7.
Comme Marin Fouquet. Vous l'avez lu d'ailleurs, le livre de Marin Fouquet?
Ah non, pas du tout.
Il y a un jeune qui vient du 7-7, qui a sorti un livre chez Actes Sud, qui a eu un certain succès, du moins critique, puisque c'est un slammer, il raconte ce que c'est que de vivre dans le 7-7. C'est-à-dire, c'est pas Paris, c'est pas la banlieue et c'est pas la campagne. C'est autre chose.
Ça, c'est fou. Hein. Ouais. C'est vraiment fou parce qu'il y a une. C'est un peu une bulle. C'est-à-dire que oui, c'est pas la campagne, c'est pas Paris, on est proche de Paris et en même temps on a l'impression d'être à 10 000 km de Paris, quoi. Ça paraît complètement. Il y a très peu de bus, faut choper un RER, c'est 30 minutes en bagnole, si on n'a pas le permis, c'est compliqué. C'est principalement des champs de betteraves et des zones industrielles. Des résidences pavillonnaires, il y a quand même des espaces verts, des forêts, donc c'est l'enfance quand même est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la nature, quoi. On peut éprouver un peu ce que c'est que d'aller courir, d'aller machin et tout ça, donc ça c'est plutôt agréable, mais quand même arrivé à 18 ans, fin de l'adolescence, on se dit bon, ce serait pas mal de bouger un coup, quoi.
Vous avez grandi dans quel milieu social?
Classe moyenne, je crois, hein. c'est ce qu'on dit.
Ouais.
Mais mon père était bossait à la banque et ma mère comptable, elle était comptable. Ma grand-mère était couturière et mon grand-père ouvrier. Une enfance plutôt modeste et somme toute très agréable.
Et alors, Jamel Debbouze, c'est votre idole? Vous avez quel âge à ce moment-là?
7, 8 ans, 9, ouais, c'est un truc dans le genre. Enfin, je regarde énormément H à l'époque, des cassettes vidéo, quoi, dans le salon. Et H, ouais, ça passait à la télé. Même parfois, je crois que c'était encrypté, je le regardais même encrypté des après-midi et tout ça. Et ouais, non, c'est Jamel, vraiment, quand je le voyais, ça me motivait, en fait. C'était comme c'était voir quelqu'un comme ça et d'être hyper fan et de se dire, ça donne envie de jouer, quoi. Il y a des gens comme ça qui vous donnent envie de jouer après. Je pense que ce qui m'a donné envie d'en faire mon métier, c'est... Quand je suis monté sur scène et que j'ai découvert les sensations que ça procure, quoi. C'était à 10 ans, je jouais dans une pièce montée par le professeur du cours de théâtre du village. Et je suis monté sur scène dans une pièce qui s'appelait Satané Paradis, et puis j'étais en toge. Et je faisais plein de blagues comme ça, et puis je me souviens vraiment de cette image des projecteurs qui m'éblouissent un peu, et puis dans le noir, des silhouettes de personnes... Et le son, quoi, les rires des gens, c'est comme un rêve, en fait.
Est-ce que déjà à l'âge de 10 ans, William Lebguil, vous étiez dans ce personnage naïf, lunaire, celui que vous allez interpréter dans cette série qui va vous faire connaître, dans le rôle de Slimane, hein, parce que vous avez joué dans cette série populaire avec Kev Adams. Est-ce qu'il y avait déjà ce personnage-là?
Je crois pas, en fait, je sais pas exactement, ou alors c'était un peu inconscient peut-être, mais en tout cas quand j'étais sur scène et que j'avais 10 ans, j'essayais plutôt d'imiter ce que je voyais. Je me souviens, j'avais regardé une cassette de Michel Courtemanche et j'avais appris tous ses sketchs par cœur, donc je pouvais tous les refaire et j'avais même joué une fin d'année, donc c'était vraiment ça mon truc, quoi. Et après, ce personnage lunaire, oui, il est peut-être arrivé, je pense, avec Soda.
Soda, c'est le titre de la série, hein, pour ceux qui ne sont pas jeunes ou qui se sont éloignés de la planète des 20 ans.
Oui, c'est ça. Ouais, non, je pense qu'il a ce personnage, je l'ai trouvé là avec le temps, parce que aussi sur cette série, ce qui était formidable, c'est le fait de tourner énormément, quoi. En même temps, j'étais à l'école de théâtre Et en même temps, je tournais 6 mois de l'année. Donc 6 mois de l'année, j'étais sur un plateau avec les caméras et je jouais. Et du coup, ça permet aussi de... C'est un peu comme être en alternance, quoi. À l'école et puis au boulot.
Puisque vous parlez d'alternance, William Lemgill, on connaît très bien parce qu'on vous a vu à la télévision ou sur Internet dans Soda, dans la web-série que va réaliser ensuite celui qui va très bien vous éclairer, celui que vous appelez le phare breton, c'est-à-dire Riyad Satouf. Mais il paraît que parallèlement, vous aviez une carrière de comédien dans le théâtre le plus classique, le plus tragique.
Ouais, tout à fait. Ouais, mais en fait, j'ai commencé par le théâtre et c'est quelque chose que je veux continuer à faire absolument, quoi. C'est vraiment une passion pour moi d'être sur scène et de raconter aussi une histoire d'une manière différente qu'avec le cinéma, d'arriver sur scène et puis d'enchaîner pendant 2 heures une pièce, de raconter une histoire dans sa continuité et tout ça. C'est aussi avec un public, le spectacle vivant en fait me plaît beaucoup et depuis tout petit et j'ai toujours envie d'en faire, ouais.
Alors l'autre rencontre importante, on a parlé de Kev Adams, mais l'autre rencontre importante, c'est bien sûr avec Riyad Satouf. Riyad Satouf qui dit qu'il vous a rencontré après un casting, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. Mais en fait, c'est la première personne qui m'a fait tourner Riyad. Avant même la série, c'est la première chose que j'ai faite, c'était avec Riyad. Ouais, c'était comme rencontrer un Pygmalion, quoi, un guide, quelqu'un où je me suis dit... j'ai fait une espèce de transfert sur lui direct, où je sais pas, on avait une relation que je trouvais magnifique. On se marrait énormément, évidemment, et puis il était très avec nous, très avec les acteurs, très dans quelque chose de très humain, de vraiment hyper bienveillant et marrant, surtout marrant, quoi. Surtout c'est vraiment ça, quoi. Je crois que c'est un des mecs les plus marrants que je connaisse, quoi.
Quand vous parlez de Riyad Satouf, vous ne parlez pas du film Jackie au Royaume des Fils, dans lequel vous jouez, mais on parle bien de cette web-série.
Oui, tout à fait, ouais, c'est une web-série qui s'appelait Mes Colocs. Ouais, tout à fait.
Ça parle de quoi ? Ça parle des jeunes, non ?
Oui, c'est ça, ça parlait de deux jeunes puceaux qui cherchent une colocation, et en fait, il se trouve qu'ils visitent un appart, et puis les chambres sont pas top, mais les filles sont extrêmement jolies, du coup, ils disent « ouais, d'accord ». Et puis c'est un peu c'est une chronique de la vie de ces jeunes en colocation, quoi.
Le grand adolescent potache, gentil, mais quand même un peu paumé, c'est vous, une fois de plus.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
William Lemgill, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre jeu ? Est-ce que vous avez l'impression de vous inscrire dans une vieille tradition des comédiens avec... des écoles de théâtre, la rencontre avec des metteurs en scène à Pygmalion, comme vous venez de dire pour Riyad Satouf, ou vous venez avec quelque chose de nouveau charrié par l'époque ?
Mais je crois que c'est un mélange des deux, parce que je suis quand même très admiratif de la vieille école, enfin en tout cas de la vieille école, enfin oui, des acteurs comme Jean Carmet ou Rochefort, Marielle et tout ça, qui ont un humour que je trouve fabuleux et une... Et à leur époque, eux étaient, je pense, aussi des novateurs. Enfin, ouais, j'adore leurs films. Et...
On s'ennuyait à ce point dans le 77 ? Dans le 7-7, pardon ?
Non, mais je les ai découverts plus tard. Dans le 7-7, je regardais que les films de Schwarzenegger, en fait. Non, mais en tout cas, moi, je sais pas, oui, je crois que c'est un mélange des deux, en fait, de cette admiration que je peux avoir pour les acteurs anciens et aussi pour une espèce d'envie d'acteur de trouver des choses nouvelles et puis d'essayer de... Ouais, c'est de la recherche, hein, je sais pas trop comment dire.
C'est-à-dire que vous avez pas le profil type d'un jeune premier des années 50, 60, 70 ?
Ouais, non, pas du tout. Ouais.
Vous êtes même l'antithèse, on vous classerait plutôt avec Roméo Elvis, le rappeur, et je dis parce que je sais que vous avez tourné dans son clip.
Oui, tout à fait, ouais, j'adore.
Ou même Vald.
Ah oui, ça fait plaisir aussi, j'adore Valde. Ouais. Mais ouais, mais ça, c'est des gens aussi qui m'inspirent beaucoup, quoi. Et j'écoute leur musique et tout ça, et j'aime bien la manière dont ils parlent, quoi. En tout cas, ça me parle énormément. Ouais.
Vous le soignez, votre look, William Lebgill ? C'est-à-dire cette barbe, ces cheveux frisés qui tombent en boucle ?
Je le soigne un peu, de temps à autre, mais j'aime bien avoir une seule panoplie quand même. J'achète pas énormément d'habits, quoi. J'ai mes petits habits que j'aime bien, et puis, mais c'est pas très soigné. Après, c'est vrai que là, mes boucles, je les. Mais parce qu'en fait, j'ai eu très honte pendant très longtemps d'être bouclé. J'aimais pas le fait d'être bouclé. À l'école et tout ça, j'aimais pas ça, quoi. Et là, ça fait pas longtemps que je me dis, mais laisse-toi pousser les cheveux, laisse-les vivre. Mes grands-parents, en plus, adoraient mes cheveux longs. Du coup, là, je les ai jamais eus aussi longs. C'était le petit instant beauté de France Culture.
Lebgill, ça vient d'où, ça ?
Ça vient d'Algérie. C'est de mon père. Ouais.
Et sinon, vous avez beaucoup de propositions. Vous n'arrêtez pas de tourner ?
Je tourne en ce moment un film avec Antonin Perez-Jatko, avec Philippe Catherine, que je retrouve. Ouais, je suis très content. Anaïs de Moustier aussi, et Josiane Balasco. Hier, j'ai tourné avec Philippe Duquesne, c'était très très drôle. Et puis j'ai fini, là je jouais au théâtre, j'ai joué un mois au théâtre à La Tempête, à la Cartoucherie.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier, William Lebgill ? Le fait d'interpréter, d'incarner des personnages, le fait de plonger dans un monde qui n'est pas le vôtre, l'amour des textes, l'envie d'apparaître ?
Ouais, bien sûr, il y a une grande envie d'être aimé là-dedans et aussi une envie de se rencontrer, puis de rencontrer les autres, et puis tenter, si c'est possible. Enfin, c'est ça aussi que je trouve très intéressant et très difficile, c'est de parler des autres. Parce que c'est notre mission, en fait, en tant qu'acteur. Il y a une citation de Michel Bouquet qui dit c'est terrible d'être acteur, c'est parler des autres avec soi, mais éviter de parler de soi avec les autres, par le biais des autres. Et c'est ça, toute la difficulté, en fait, c'est de parler des autres avec soi. Et en fait, c'est une démarche que je trouve belle, parce qu'elle est, premièrement, elle est altruiste, et je trouve que c'est bien. Et deuxièmement, c'est parce que ça cultive la curiosité et la différence, et de comprendre... Enfin, je trouve que philosophiquement, c'est hyper intéressant, quoi. Même intellectuellement, même physiquement, c'est très intéressant.
Et à l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire quel âge, en fait ?
29 ans.
Est-ce que vous rêvez de faire vos propres films, ou ça vous plaît d'être comédien et de voyager d'un univers à l'autre ?
Moi, j'aime bien ça quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, je me pose pas trop la question de faire de films. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de jouer et d'être acteur. Ouais.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Comment, s'il fallait passer par la culture pour essayer de dresser votre portrait, William Lebgill ?
Là, je lis de la BD, un petit peu. Là, en ce moment, je lis Tulip. C'est une BD que Philippe Catherine m'a offert. Et c'est vraiment génial, parce que c'est assez mystique. Et en même temps, philosophiquement, c'est hyper réconfortant, je trouve. Sinon, ça pourrait être... qu'est-ce que j'ai lu là ? Là, j'ai commencé à feuilleter un peu un bouquin sur la vie de Philippe de Broca, aussi. Parce que, justement, pour le film de Antonin Perez-Jatko, il m'avait conseillé de regarder L'Homme de Rio, que j'avais pas vu. Et du coup, je découvre cet univers qui est excellent, avec le magnifique aussi, tout ça. Et justement, sur un cinéma qui serait plus dans la forme et dans le... Enfin, il parle de l'importance du costume... aussi des petites bribes d'un bouquin sur du premier assistant de Jean Eustache. Et puis là, sinon, ouais, j'aime beaucoup une BD qui s'appelle Le Gourmet Solitaire, qui est
Taniguchi.
Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est génial, j'adore, parce que c'est vraiment une espèce de truc où tu suis un mec qui mange en permanence, ça te donne faim, t'as envie de, tu sens les odeurs avec lui, tu sens, t'entends les bruits du Japon et tout ça. Et puis, c'est un homme très silencieux. C'est vraiment hyper reposant comme bouquin. Je trouve ça génial.
Sinon, pour le reste, vous êtes comme tous les jeunes. Vous êtes shooté à YouTube, non ?
Enfin, j'aime bien YouTube, mais c'est vrai que je passe pas ma vie sur YouTube. J'arrive pas trop à regarder des vidéos en permanence.
Et pas de jeux vidéo non plus.
Ah si, je joue un peu aux jeux vidéo, ouais, j'aime bien ça, ouais.
Ah quand même.
Ouais, ouais, j'aime bien FIFA. J'aime bien FIFA, ouais.
Vous êtes jeune, quoi.
Ouais, ouais, je suis quand même un peu jeune. Hein.
Merci, Wickham Lepgill.
Merci.
Et on retrouve Olivier Delcroix, un mercredi par mois.
Mais oui, mon cher Toufik.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Mystère Figaroscope. Alors, vous avez vu le film de Sébastien Becbédère, Debout sur la montagne?
Mais oui, j'ai vu ça. J'ai d'ailleurs été assez étonné. C'est un film qui n'est pas habituel, effectivement. C'est une sorte d'étrange odyssée. Et j'avoue que je me suis finalement assez laissé porter par ces trois amis d'enfance comme ça qui sont réunis par le destin à la mort du grand frère de l'un d'entre eux. Et finalement, voilà, on se retrouve un petit peu emporté par une douce mélodie qui est celle de la montagne.
Hein.
Une mélancolie aussi, voilà.
Jeune et déjà abîmé par la vie.
Ah bah le moins qu'on puisse dire, parce qu'effectivement ces jeunes adultes se retrouvent complètement déboussolés. Alors ils vont des randonnées dans la montagne. Il y a quand même une espèce de pointe de fantastique qui a été glissée par Sébastien Becbédère dans le film. C'est assez... Moi, je trouve ça assez joli. J'aime bien tout d'un coup cette irruption du zèbre qui se balade comme ça dans un petit village montagnard. J'aime bien ce lama qui broute dans un jardin.
Et cette météorite que transporte William Lepgill.
Exactement. Non, il y a ce petit parfum comme ça de poésie un peu décalé. Voilà, ça m'a assez charmé. Ce qui est formidable aussi, c'est de se dire que finalement tous ces petits Parisiens qui se retrouvent à l'enterrement de ce Pierre, le début là avec le personnage du curé qui fait écouter du rap, est assez, et qui fait regarder d'ailleurs les griffes de la nuit à ses disciples. Je trouve ça assez rigolo. Et je trouve que le personnage du curé est assez attachant. C'est l'éternel papa le quénois dans c'est André Wilms, voilà, c'est ça. C'est André Wilms qui est formidable dans le rôle du prêtre, que j'ai trouvé très drôle, très décalé aussi. Et voilà, donc je suis parti dedans. J'ai aimé finalement moi aussi être un petit peu debout sur la montagne. À vrai dire, après, j'attends la suite. Parce que effectivement, il y a beaucoup d'intentions, il y a un petit peu de poésie. Mais quelque part, on aimerait que ce soit un peu plus abouti.
Bon allez, une autre odyssée, on laisse tomber la montagne, on revient à Paris, et cette fois-ci, ce que nous vous proposez, dans ce numéro du Figaroscope qui sort aujourd'hui, c'est de redevenir underground,
exactement,
en quelque sorte.
J'ai toujours rêvé d'être underground, et effectivement, ce dossier m'en fournit un petit peu l'occasion, tout simplement parce que Le Paris souterrain, les 20 adresses cachées du Paris sous terre. Alors c'est pas les Gaspard de Tchernia, hein. Attention, on n'est pas sur un scénario.
Ni les
de
petites fêtes ados dans les catacombes non plus.
Quoique, on le cite. Non, c'est toujours un peu sympathique d'aller frissonner du côté du plus grand dossier du monde. Hein. Les catacombes, ça reste quand même un passage obligé quand on est dans le Paris de souterrain. Mais en réalité, non, on se rend compte là, actuellement, qu'il y a beaucoup de projets en cours, notamment par exemple le projet Terminus dans la station de métro Croix-Rouge, dans le 6e arrondissement, qui veut finalement transformer cet espace inoccupé en restaurant, en atelier, en salle de spectacle. Il y a plein de projets, un projet musical qui s'appelle Master Sound, dans l'ancien club de la Main Jaune. Il y a aussi un projet de transformation de la gare des Invalides en futur musée pour enfants. Donc en fait, on se rend compte que c'est très tendance actuellement de passer sa vie sous terre. Alors bon, à l'orée de l'hiver qui s'approche, autant se pelotonner dans des caves de jazz. Il y a le Sunset qui est extraordinaire pour ça.
Et des menaces qui nous guettent. C'est pas mal de vivre sous terre. Voilà. D'apprendre à vivre sous terre.
Et puis finalement, les sous-sols, c'est vrai qu'ils nourrissent de nombreux fantasmes. Mais en même temps, voilà, explorer le Paris des profondeurs, c'est aussi, je dirais, renouer avec l'histoire de la capitale et faire le lien entre les vieux fantômes et les projets d'avenir.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview donc de William Lepgill à l'occasion de la sortie du film de Sébastien Becbédère aujourd'hui, Debout sur la montagne, en passant aussi par franceculture.fr. franceculture.fr. Bonne matinée sur France Culture, donc, et à demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'en France, les migrants sont vraiment mieux traités que les SDF ? L'Europe aurait-elle été fondée sur ordre des services secrets américains ? Les OGM sont-ils dangereux pour la santé ? Mais surtout, ils sont là, ils sont cachés dans les villes, dans les campagnes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais trop souvent des mauvaises réponses. Les idées claires, c'est votre pilule hebdomadaire contre la désinformation.
Les idées claires, Nicolas Martin. Chaque mercredi, retrouvez un podcast audio et une vidéo. Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La République fait bloc autour des victimes de la mosquée de Bayonne, dit Emmanuel Macron. Le président de la République a pris la parole hier soir en plein débat sur la laïcité et sur le port du voile. Mais ce débat anime-t-il vraiment les parents d'élèves ? Nous avons posé la question au Comité national d'action laïque. Réponse à venir. Dans cette édition, vous comprendrez aussi pourquoi la piste terroriste semble s'écarter près d'un mois après l'attaque dans la préfecture de police de Paris. Et puis nous analyserons la possible fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Des négociations auraient débuté. Ce n'est ni la négation du fait religieux, ni un outil de lutte contre les religions, mais une valeur du triptyque républicain. Emmanuel Macron donne ainsi sa vision de la laïcité, deux jours après l'attaque de la mosquée de Bayonne. La République fait bloc autour des victimes, voilà ce qu'a dit le chef de l'État. La classe politique par ailleurs se déchire à propos des signes religieux en sortie scolaire, signes de l'islam notamment. C'est le port du voile par un parent d'élève à Dijon il y a 15 jours qui avait relancé le débat. Hier, la droite sénatoriale a validé la proposition de loi pour interdire ces signes religieux. Cette proposition de loi ne devrait pas être validée par l'Assemblée nationale toutefois. Le port du voile en sortie scolaire, est-ce vraiment un souci au quotidien ? Thomas Larabi a posé la question à Rémi-Charles Sirvent, secrétaire général du CNAL, le Comité national d'action laïque.
Le CNAL a fait une enquête l'an dernier et a posé des questions aux enseignants. C'était la première fois qu'on posait la question aux enseignants sur le principe de laïcité, son application, ses réussites, ses difficultés. On s'est aperçu que dans 2% des cas, il y avait des problèmes liés aux sorties scolaires en termes de laïcité. Ça se retrouve essentiellement dans le nord de la France, en région parisienne. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes absolument partout, mais dans des endroits très localisés qui ne sont absolument pas généralisables, notamment en éducation prioritaire. C'est compréhensible parce qu'on a un système éducatif qui est quand même assez ségrégatif, où l'entre-soi des uns favorise la ségrégation des autres. Donc on l'explique comme ça. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des problèmes partout, mais la polarisation extrême du débat public autour de la question des sorties scolaires est complètement toxique actuellement et il va falloir bien s'en dégager. Nous, ce qu'on avait proposé, c'est une mission parlementaire qui serait dévolue à cet effet pour avoir la vérité des prix, pour voir exactement ce qui se passe et puis sortir des paroles toxiques qu'on entend à peu près partout en ce moment.
C'était Rémi-Charles Sirvent au micro de Thomas Larabi. Autre attaque qui a eu lieu à Paris, cette fois à la préfecture de police. Début octobre, Michael Harpon, fonctionnaire, tuait 4 de ses collègues. Une commission d'enquête débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors que le caractère terroriste de cette attaque n'est plus vraiment privilégié par les enquêteurs, Emmanuel Leclerc.
C'est la façon dont Michael Harpon a attaqué ses collègues au couteau qui fait toujours penser à une attaque djihadiste, confie un proche du dossier. Mais pour le reste, il n'y a rien à ce jour qui s'apparente à un acte terroriste. Selon nos informations, ce sont bien les premières conclusions auxquelles sont arrivés les différents services antiterroristes chargés de l'enquête. L'audition de l'épouse et les éléments recueillis depuis font dire aux enquêteurs que le passage à l'acte est bien lié d'abord à un délire mystique et suicidaire sur fond de frustration professionnelle aggravée par son handicap de surdité. Ça radicalisation religieuse, ses relations avec une mouvance salafiste dans sa mosquée ne seraient pas le moteur principal. Par ailleurs, les services de renseignement n'ont toujours pas trouvé le moindre lien avec une organisation terroriste islamiste. Pas de revendication, pas d'allégeance. Il n'y a aujourd'hui aucun indice sur la transmission par Michael Harpon de documents compromettant la sécurité de ses collègues. Enfin, les vidéos de Daesh retrouvées dans sa clé USB de travail appartiennent en fait à des policiers de son service. Michael Harpon s'occupait justement de de transférer les contenus informatiques lorsque des agents changeaient de poste.
Et le parquet national antiterroriste que nous avons contacté hier soir rappelle que les deux juges d'instruction nommés ces derniers jours devront justement préciser les motifs du passage à l'acte de Michael Harpon. 3,5 millions d'heures supplémentaires. Le ministère de l'Intérieur s'engage à les payer aux policiers d'ici la fin de l'année. Il le disait hier soir par communiqué. Un effort évalué à 50 millions d'euros selon le ministère qui avait promis l'année dernière de payer ces millions d'heures impayées aux policiers. Il s'est peu exprimé depuis un an, depuis l'effondrement d'immeubles rue d'Aubagne à Marseille. 8 personnes étaient mortes. Aujourd'hui, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, se confie. Lui qui a été très critiqué pour sa mauvaise gestion de ce drame. Il assure que cette catastrophe le hante tous les jours à l'aube de la fin de son dernier mandat. Jean-Claude Gaudin.
Je ne vous cache pas qu'à la fin de mon quatrième mandat à la mairie, j'y pense tous les jours. Ce que l'on m'a reproché, c'est de ne pas avoir parlé, c'est de ne pas être entré dans la polémique au moment de ce drame. Mais au moment de ce drame, nous avons dû, les adjoints au maire et moi-même, nous avons dû, avec plus de 500 personnes mobilisées, faire face à une situation dramatique. Je n'avais pas le temps de parler à la presse. Mais depuis, je peux démontrer ce que nous avons fait et ce que nous voulons faire. Alors que récemment, un parlementaire a fait un rapport disant que l'habitat indigne, il existe très largement dans l'ensemble aussi du pays. Donc Marseille ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt.
Des propos recueillis par Olivier Martoc. Je précise qu'il y a un an, 3500 personnes avaient été évacuées de leurs immeubles à Marseille. La moitié sont toujours aujourd'hui hébergées dans des conditions précaires et dans l'attente d'un relogement. Un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen, l'enquête vient d'être confiée à des juges d'instruction parisiens. Il s'agit de 3 magistrats du pôle santé publique du tribunal de Paris. Des magistrats qui seront chargés de conduire les investigations, notamment dans le cadre de l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Le parquet précise qu'à ce jour, 545 plaintes ont été déposées. PSA serait en négociation avec Fiat Chrysler pour fusionner. Le propriétaire de Peugeot, Citroën et Opel avait pourtant semblé écarter cette éventualité le mois dernier, mais depuis des années, Fiat est impatient de trouver un partenaire. Après des alliances ratées avec General Motors et plus récemment des négociations avortées avec Renault, si cette fusion entre PSA et Fiat Chrysler se réalise, elle créerait le numéro 4 mondial de l'automobile. Et chacun a ses arguments, Pierre-Yves Dugas.
Pour le groupe français, l'opération ouvrirait les portes du marché américain. Fiat Chrysler, avec son réseau de concessionnaires, représente 13% du marché des États-Unis. Le groupe italo-américain, de son côté, se renforcerait en Europe et, bien sûr, pourrait mieux partager les coûts énormes des investissements nécessaires au développement de véhicules électriques et de voitures autonomes. Le schéma envisagé ferait de Carlos Tavares, actuellement patron de PSA, le patron du nouveau groupe. John Elkann, patron de Fiat Chrysler, héritier du clan Agnelli qui détient encore 29% du groupe italien, présiderait, lui, le conseil d'administration. John Elkann avait renoncé à fusionner Fiat Chrysler avec Renault en juin dernier, jugeant que le gouvernement français, actionnaire de Renault, ne soutenait pas son approche.
La quatrième tentative est finalement la bonne. Des élections anticipées auront lieu en Grande-Bretagne le 12 décembre prochain. Les députés britanniques l'ont approuvé hier soir. Le Premier ministre Boris Johnson espère ainsi retrouver une majorité et mettre en œuvre le Brexit d'ici le 31 janvier prochain. Washington appelle à la formation d'un nouveau gouvernement au Liban après la démission de Saad Hariri. Toute violence ou toute action provocatrice doit cesser. Voilà ce que dit le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Alors qu'hier, le premier ministre libanais Saad Hariri avait démissionné 2 semaines après le début d'un mouvement populaire inédit dans le pays, les manifestants protestent contre la corruption des élites et ils demandent leur départ. Elle est devenue l'une des activistes pour les droits de l'homme les plus connus de la planète et un documentaire britannique lui est consacré. XY Chelsea sort dans les salles aujourd'hui. Un portrait intime et émouvant de Chelsea Manning, ancien soldat américain qui a dévoilé en 2010 à Wikileaks d'importantes bavures de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Condamné à 35 ans de prison pour trahison, Chelsea Manning a vu sa peine commuée à 7 ans de prison à la fin de l'administration l'administration Obama. En avril dernier, Chelsea Manning s'est transformée en femme. Et le réalisateur du documentaire Tim Travers Hawking a choisi de lier les deux sujets.
You cannot tell the story of Chelsea Manning without looking at these two elements.
Ne pouvait pas raconter l'histoire de Chelsea sans voir les deux sujets. Ils sont absolument intégrés à ce qu'elle est. Sa transidentité, qui n'a pas pu être révélée, l'a conduite à ce qu'elle est devenue. C'est une femme trans qui a commis l'une des plus importantes révélations de notre temps. Que vous le vouliez ou non, c'est lié. Lorsqu'elle a été jugée, certains médias américains ont dit qu'elle était malade et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait parce qu'elle était trans et ils ont voulu saper les motifs politiques derrière cette question de l'identité. Donc c'est impossible de parler de l'un sans l'autre. Et c'est une activiste, pas seulement par circonstance ou même à cause de sa conscience politique, et parce que c'est sa façon d'être. Il faut que les gens comprennent qu'aux États-Unis, quand vous êtes une femme trans, il y a des mouvements politiques qui vous visent et vous êtes obligé de vous défendre. Il y a vraiment un combat à mener pour votre reconnaissance et contre ceux qui considèrent que vous ne méritez pas les droits pour lesquels vous vous battez.
C'était Tim Travers Hawking s'interrogé par Anne Fauquemberg. Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest ce mercredi. Ce matin, Météo France prévoit 9 degrés à Paris et Lille, 15 à Nantes et Lyon, 21 degrés à Perpignan. 6h40, c'est l'heure du journal des idées sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
Jacques, nous l'évoquions il y a quelques minutes. Les sénateurs examinaient hier un texte sur le port du foulard islamique lors des sorties scolaires, un texte qu'ils ont adopté.
Oui, le projet de loi déposé en juillet par les Républicains entend modifier le code de l'éducation pour compléter l'interdiction des signes religieux ostensibles de la loi de 2004. Il y a peu de chances qu'il soit adopté en état à l'Assemblée. Jean-Michel Blanquer, après avoir soufflé le chaud, a fait machine arrière. Dans les pages débats et controverses de l'Humanité, Jacques Gaillot, l'ex-évêque d'Évreux, et Bertrand Gaufriot rappellent que dans l'histoire de la laïcité, des républicains anticléricaux avaient milité pour interdire le port de la soutane dans l'espace public et que les élus préparant la loi de 1905 avaient écarté cette disposition jugée trop répressive. Toute l'ambiguïté du débat apparaît lorsque les auteurs citent ces propos de Robert Badinter sur le voile. Quand on accompagne des enfants de confessions différentes, on ne met pas un signe religieux aussi ostensible, ça n'est pas illégal, ça n'est pas de bonne volonté de vivre ensemble, la laïcité est une des grandes barrières au poison du fanatisme. Pas besoin de nouvelles lois, mais la nécessité d'approfondir notre modèle d'accueil des différences, et notamment grâce à l'école. Le Monde, et c'est assez rare pour être souligné, publie les témoignages de femmes qui ont choisi de porter le voile et qui se défendent de l'instrumentalisation qu'on leur impute entre choix religieux et emblème identitaire. Elles revendiquent une décision personnelle, bien que certaines d'entre elles évoquent l'existence d'une pression sociale en faveur du port du foulard, notamment ces jeunes filles qui se couvrent la tête uniquement dans leur quartier pour avoir la paix et pouvoir sortir le soir en toute liberté. Dans les pages idées du quotidien, Didier Lesky, du Monde donc, Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, estime que l'hystérisation du débat sert aussi de carburant aux défenseurs inconditionnels du voile qui affirment comme une évidence indiscutable que les croyants musulmans seraient victimes d'une islamophobie d'État. 30 ans après l'affaire de Creil, il souligne à la fois les du Conseil français du culte musulman, pris en otage par des querelles sans fin et qui peine à structurer une représentation des musulmans, et les réussites des pouvoirs publics, locaux comme nationaux, qui n'ont cessé d'œuvrer à l'amélioration de la situation des fidèles, notamment par la construction des mosquées. Même les salafistes ne connaissent pas autant d'entraves que celles, écrit-il, que celles infligées aux témoins de Jéhovah, empêchés par des manifestations d'ouvrir des salles du royaume, soumis pendant des années et à des centaines de contrôles fiscaux, ou encore à des licenciements du fait de leurs convictions. Et face au rassemblement Place de la République contre l'islamophobie, personne devant l'ambassade d'Iran pour protester contre les lourdes peines d'emprisonnement infligées actuellement aux femmes qui veulent en finir avec la domination vestimentaire patriarcale. Pour la philosophe et théologienne Razika Adnani, le voile est devenu en Europe un moyen de combat politique car il n'est ni un principe fondateur de l'islam, ni un principe de sa pratique, précise-t-elle sur le site Atlantico. Mais pour les conservateurs qui continuent de confondre islam et politique, dans l'espace public, une femme voilée est plus efficace pour la cause que tous les musulmans qui prient entre eux à la mosquée ou qui jeûnent. Selon elle, une des causes de l'échec de la sécularisation, malgré le mouvement de la Nahda ou de la Renaissance que le monde musulman a connu à la fin du 19e siècle et les premières décennies du 20e, est due au fait que pour garder leur pouvoir, les dirigeants des pays musulmans ont accordé des concessions aux conservateurs pour les avoir de leur côté. En l'absence de politique sociale, ils ont abandonné le terrain à leurs organisations de bienfaisance, leur ont aussi livré l'école et les moyens de communication. Le Figaro publie les bonnes pages de l'ouvrage de Pierre Vermeuren, Déni français, notre histoire secrète des relations franco-arabes. L'historien du Maghreb contemporain y traite notamment de l'incapacité de l'État à traiter les questions que soulève l'islam de France, l'islam en France. De 1962 à la guerre civile, écrit-il, l'Algérie a exercé l'essentiel du suivi du culte musulman en France, puis, du fait de l'extrême difficulté de l'État algérien à maîtriser ses islamistes, la France a accordé des responsabilités croissantes au Maroc, devenu à son tour le plus grand pourvoyeur d'imams et de fonds de l'islam en France. Mais aux yeux des musulmans, la France transforme l'or en plomb dès qu'elle s'érige en gardienne du temple islamique, car elle persiste à penser en termes de clergé, et l'islam sunnite n'en a pas. Du coup, c'est au Maghreb qu'auront lieu ou pas la réforme et la reprise en main d'un islam sorti des griffes du salafisme. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, le transfert des djihadistes de Syrie vers l'Irak a commencé.
Oui, ces combattants djihadistes détenus par les Kurdes dans des camps du nord-est de la Syrie se sont rappelés au souvenir des gouvernements européens et notamment français quand l'offensive turque dans la région a bien failli les soustraire de leur surveillance par les forces kurdes. En France, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian dit œuvrer à un accord avec l'Irak pour que ces djihadistes y soient transférés et jugés. Sauf qu'avant même tout accord, les transferts ont déjà commencé. C'est ce que vous avez découvert lors d'une enquête de terrain. Bonjour Inès Daïf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez juste d'Irak. Vous étiez cet été dans le Kurdistan syrien. Vous rédigez une thèse en droit international depuis 2 ans sur la Fédération démocratique du Nord-Est syrien. Et j'imagine que de fil en aiguille, vos recherches vous ont emmené sur des terrains auxquels vous n'aviez peut-être pas songé au début en vous lançant dans votre thèse. Alors la question des djihadistes détenus dans le Nord syrien, avant de parler de leur transfert vers l'Irak, de qui parle-t-on ? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de djihadistes toujours retenus dans le Kurdistan syrien après l'offensive turque?
Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, cela concerne 400 djihadistes, hommes, femmes et enfants, donc ressortissants français, donc qui sont détenus dans le nord-est syrien, donc chez les Kurdes, par les Kurdes syriens, dans des prisons pour les hommes et dans des camps pour les femmes. Et alors pour une précision, un document officiel qui avait été rendu public en avril faisait état de à peu près 260 ressortissants français qui d'ailleurs devaient être rapatriés à ce moment-là. Donc un document, une liste qui prévoyait un rapatriement de la part du ministère des Affaires étrangères. Donc ça c'était durant la bataille, enfin la fin de la bataille de Barousse qui était le dernier réduit donc de l'État islamique.
Parce que dans un article que vous avez publié avec votre collègue journaliste Stéphane Kenek, qui s'est lui aussi rendu régulièrement dans cette zone avec vous, alors vous citez plusieurs sources, irakiennes et kurdes, qui affirment qu'au tout début de l'offensive turque, un convoi de prisonniers a été acheminé depuis le Kurdistan vers l'Irak. Quel genre de convoi? Combien était-il? Quelle nationalité?
Alors, il s'agirait d'un convoi de 50 djihadistes européens et asiatiques. Au sein des Européens, il y aurait donc des Français. Une autre source plus récente a exprimé le nombre de 6 à 12 Français, donc leaders transférés du nord-est de la Syrie vers l'Irak.
Leaders, c'est ce que disent vos sources, ce sont des prisonniers de haute valeur, on
vous dit. Exactement, voilà, exactement. Donc des leaders de l'État islamique. Donc comme par hasard, un transfert concomitant donc au départ de l'offensive turque, donc une mise peut-être en protection de ces leaders, vu que la situation sécuritaire allait se dégrader au fur et à mesure des semaines.
Pour les emmener où? Peut-être par la route jusqu'à Erbil, au Kurdistan syrien, comme ça s'était fait.
Exactement,
au début
ils transitent en permanence via Erbil et ensuite ils sont transférés à Bagdad où ils seront jugés par une cour fédérale.
Et ce, alors qu'il n'y a pas encore d'accord officiel entre Paris et Bagdad. Très récemment, il y a une dizaine de jours, Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Bagdad pour en parler avec ses homologues irakiens. Il a parlé d'une coopération prochaine, pas d'une coopération en cours.
Exactement, donc en fait ce transfert s'est fait indirectement, antérieurement à la venue du ministre, exactement.
Et est-ce qu'il a pu se faire sans que la coalition en soit informée, par exemple?
Alors non, justement, les sources irakiennes du renseignement, enfin kurdes et irakiennes, gouvernementales, expriment que justement c'est la coalition, comme le dernier transfert qui avait eu en début d'année, ce transfert a été mis en place, commandé et géré par la coalition.
Alors que la version officielle française, c'est l'opération a été conduite uniquement par les forces démocratiques syriennes et les services irakiens d'enseignement.
Exactement, alors ça c'était la version officielle pour le transfert de début d'année.
Et là, cette fois, est-ce que vous avez réussi à obtenir des informations, à les joindre là-dessus?
Du côté du ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de démenti direct, mais pas plus de détails qui ont été transmis.
Alors Inès Daïf, ce qui a dû rendre l'opération plus délicate qu'elle ne l'est déjà sur le principe, c'est qu'à la fois les troupes turques approchaient alors, juste avant que ce convoi ne parte. Mais en plus, en Irak, où ces djihadistes ont été transférés, des manifestations ont lieu depuis plusieurs semaines. Le gouvernement est sans doute concentré sur la situation intérieure.
Exactement. Donc en fait, justement, ce qui ressort, c'est que le gouvernement irakien n'a pas forcément l'envie de juger une manne aussi importante de djihadistes étrangers, parce qu'il n'est pas question que des djihadistes français. Et vu la situation donc actuelle avec les soulèvements sociaux, avec le nombre de morts assez conséquent et également la question de la porosité des prisons donc en Irak.
Qui n'ont pas fait l'objet de restauration depuis les grandes évasions du début des années 2000.
Exactement, 2013-2015 à Abu Ghraib. La question maintenant se pose sur la sécurité justement des djihadistes français qui seront sans doute comme les 13 derniers, enfin les 11 actuellement condamnés à mort, qui seront incarcérés dans ces prisons. Et donc là, ce que demande le gouvernement irakien est comme lors du premier transfert, des échanges, des donations pécuniaires ou encore des donations en armement, voire des donations aussi technologiques. Donc là, on arrive en plus à des deals qui sont quand même, au regard du droit international, pas forcément très, très adaptés. Donc.
Et ça se négocie comment d'ailleurs, une compensation financière pour garder, surveiller un combattant djihadiste?
Alors une source nous a expliqué qu'un combattant djihadiste pouvait se monnayer entre 1 voire 2 millions de dollars.
Pour une année, pour un mois, pour
là, c'est pour la gestion du jugement.
Un forfait.
Exactement. Et la problématique, c'est que là, on n'est plus face à 11 djihadistes français, ce sera 60, plus également les familles. Alors les familles, il n'y a même pas d'information exacte, enfin les femmes et les enfants, il n'y a pas d'information sur comment exactement la prise en charge pourrait se faire.
Parce qu'il y a aussi eu des transferts, il y avait des femmes et des enfants
pour l'instant,
dans ce dernier
transfert. Pour l'instant, non, mais en tout cas, le ministre Le Drian recherchait le transfert global donc des djihadistes hommes ainsi que des familles vers l'Irak.
Alors c'est un transfert qui a eu lieu alors même qu'une rapporteuse spéciale de l'ONU qui s'appelle Agnès Callamard, que vous connaissez bien en tout cas, avec qui du coup vous prenez aussi des informations, a pris l'initiative à plusieurs reprises d'écrire au gouvernement français pour dire qu'en livrant des djihadistes à l'Irak, où ils sont de toute façon promis à la peine de mort, je crois que l'Irak ne réserve la peine capitale quoi qu'il en soit au procès pour terrorisme, et bien la France se met en porte-à-faux de ses obligations légales tout autant écrites-elles que ses positions morales. Voilà. Évidemment, il faut rappeler que c'est pas par mansuétude ou dans une sorte d'esprit de pardon que cette demande est formulée, mais il s'agit pas de secourir des djihadistes, mais de mettre un point d'honneur à ce que justice soit faite.
Justice soit faite pour les victimes et qu'également le droit soit appliqué aux prisonniers, enfin le droit international dont est signataire des pays comme la France. Par exemple, il y a l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève qui exprime donc le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de torture ou alors que le droit à la vie soit respecté, qui, avec ce type de procédé, est bafoué.
Le gouvernement, lui, dit avoir œuvré à ce que ses ressortissants aient eu accès à un avocat et à la protection consulaire.
Justement, ce que mettait en avant Agnès Callamard, la rapporteuse de l'ONU, c'était qu'elle n'avait pas eu vent, et officiellement, des assurances diplomatiques et également des assurances consulaires qui avaient été mises en place par la France. Et d'où un rapport là qui est sorti le 24 octobre où elle signifie... justement ces dérives.
Et que vous avez publié dans Mediapart. Inès Daïf, où en est l'idée d'un tribunal pénal international que les Kurdes appelaient à mettre en place sur leur territoire quand ils en avaient encore plus ou moins le contrôle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui?
Alors, sur le plan des Kurdes, les Kurdes souhaitent encore mettre en place ce type de tribunal international. La problématique, c'est que pour mettre en place ce type de juridiction, il faudrait qu'ils aient une reconnaissance internationale par la communauté internationale et par la coalition, ce qui n'est pas le cas. Donc pour eux, c'est vrai que c'était un peu le dernier levier d'échange qu'ils avaient avec la coalition et avec la communauté internationale. À l'heure actuelle, au vu du conflit qui est en place, qui est totalement prégnant, et le fait qu'ils n'ont aucune reconnaissance, dans l'absolu, ça ne sera pas possible. En revanche, c'est vrai que certains gouvernements européens pensaient aussi à l'application d'un tribunal ad hoc en Irak, ou alors d'un tribunal hybride en Irak également. Mais alors là, on parle de procédures qui peuvent mettre des années et des années à être appliquées, enfin applicables.
Jean-Yves Le Drian parlait par exemple d'un mécanisme spécifique inspiré notamment de ce qui a été fait au Kosovo, et apparemment plusieurs juristes disent que ce serait trop compliqué à mettre en place.
Oui, c'est ça, ce serait trop compliqué aussi. Pourquoi? À la question. Alors, déjà parce que ça va mettre du temps, parce qu'il y a la question aussi des preuves, et ça parce qu'il n'y a pas... Enfin, la question des preuves est très importante, parce qu'il n'y a jamais eu de collecte internationalisée et de collecte recoupée de preuves, que ce soit du côté syrien, que du côté irakien ou que du côté de la coalition. Et donc là, on arrive encore à une limitation pour la mise en place d'une justice internationale.
Et maintenant que cette zone du nord de la Syrie fait l'objet d'un accord entre Russes et Turcs qui ont posté des troupes un peu partout avec l'appui du gouvernement syrien, est-ce que ça rebat les cartes pour le transfert, le jugement des combattants djihadistes?
Justement, je pense que ça va accélérer le transfert vers l'Irak de ces combattants.
Donc avec des transferts cette fois légaux, officiels, on va
alors
dire.
Là, ce
pas
sera...
légaux, mais officiels.
Alors là, la complexité sera de savoir quel est le statut des prisonniers, donc ressortissants français. Est-ce que ce sont des prisonniers de guerre ou est-ce que ce sont des combattants illégaux? Et ça sera jugé vis-à-vis du conflit, si c'est un conflit internationalisé ou non. Donc le terrain juridique reste encore très flou.
Dernière question, Inès Daïf. En juillet dernier, vous avez pu suivre un avocat français du barreau de Paris, Maître Nabil Boudi, dans le camp dit de Roj, au Kurdistan syrien, camp où, écrivez-vous, sont parqués sous bonne garde les femmes et les enfants de Daesh, en tout 550 familles, dont certaines françaises. Qu'est-ce qu'il venait chercher dans ce camp?
Alors, il venait chercher des informations sur ses propres clients qui étaient condamnés à mort, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir accès à ses clients.
Il transféré pas... en début d'année.
En Irak, en Irak et condamné à mort. Après, donc, de supputer procès inéquitable, où lui-même, en tant qu'avocat, n'avait pas pu avoir accès. Et donc, il recherchait, parce que le camp comprenait des femmes de ces djihadistes-là, des informations pour pouvoir continuer à travailler sur la question et également pour pouvoir rendre justice, pas que vis-à-vis de ces djihadistes-là, mais vis-à-vis des victimes à l'international et les victimes syriennes et irakiennes.
Et est-ce que vous pensez que dans ce camp, les femmes et les enfants étaient informés de la mort d'Al-Baghdadi?
Alors à ce moment-là, non, parce que c'était en juillet. Et pour l'instant, toujours pas. Ceci est caché justement pour pas qu'il y ait d'insurrection interne.
Merci beaucoup Inès Daïf d'avoir été avec nous ce matin. Je mets en ligne sur le site des Enjeux internationaux tous les articles que vous avez écrits avec Stéphane Kenneck, notamment dans le Figaro, Mediapart et Le Parisien. Merci à vous.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Otage de Nina Bouraoui. Ce soir-là, Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, décide d'exister d'une autre façon, d'exister en tant que femme plus libre que d'habitude. Elle séquestre une nuit entière Victor Andrieux, qui l'emploie depuis 20 ans. Interprétée par Anne Benoît et Tommy Luminet, Otage est une pièce d'une puissance inouïe sur le goût du pouvoir, le désir féminin, la frontière trouble entre le bien et le mal. Otage, mise en scène par Richard Brunel, du 4 au 9 novembre à la Comédie de Valence, un partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour ce matin, faut-il regarder trop vite films et séries?
Mais oui, voilà une belle polémique provoquée par Netflix, provoquée par une fonction que Netflix a probablement failli installer sur son application, même si l'entreprise se défend aujourd'hui en expliquant qu'il s'agissait seulement d'un test. Cette fonction aurait permis de regarder un film ou une série en accéléré, quelque chose comme du speed watching, lequel s'additionne donc au binge watching, l'activité qui consiste à s'abrutir de séries, passer 48 heures à regarder les 5 saisons de Breaking Bad, je crois, Julie. Vous savez de quoi je parle. Il va de soi que la juxtaposition du speed watching et du binge watching peut donner des résultats assez impressionnants et vous permettre de basculer dans l'absence de vie absolue, le no life. Profitez du pont du 1er novembre pour ne pas voir le jour, enfin ne pas voir la pluie, en cumulant les aspects négatifs de la vie devant un écran, sans pour autant profiter de ce que l'on regarde, puisque jusqu'à preuve du contraire, une série n'est pas faite pour être regardée en accéléré, pas plus qu'une chronique d'Aurélien Bélanger n'est faite pour être écoutée en accéléré.
Salut à tout le monde, je crois que c'est la course parfaite à Mario Kart, le célèbre jeu vidéo. Des trajectoires géniales, des prises de risques hyper bien calculées, une admirable fluidité et au final une première place méritée.
Alors, bien évidemment, cette vitesse doublée n'a pas plu du tout aux cinéastes qui n'avaient pas du tout envie que la contemplation de leur œuvre se fasse en 15 minutes douche comprise. À la faveur de cette polémique, j'ai d'ailleurs souvenance d'un prof de philo de mes connaissances qui avait eu un jour cette belle tirade sur les méthodes de lecture rapide, vous savez, celles que les étudiants affectionnent, des méthodes qui leur permettent de lire les fragments de la métaphysique des mœurs en 38 minutes pour avoir plus de temps pour regarder les séries. Le vrai problème, ce n'est pas de réussir à lire plus vite, disait-il, mais de parvenir à lire plus lentement. Comment faire pour ralentir? C'est une question qu'il devient absolument urgent de se poser.